De retour à l'émission Au gré du temps, où aujourd'hui on reçoit Lucien Dubois, jeune pianiste-compositeur de 22 ans qui a très récemment, lancé son premier album. Ça s'est bien passé?
Ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de monde, j'ai été bien content. Je ne pouvais espérer mieux.
Et cet album comporte une quinzaine de pièces originales, je crois.
Oui, exactement. Les deux dernières, il y a une petite histoire rattachée à celle-ci. Lorsque je suis rentré en studio d'enregistrement, j'avais en tête d'improviser pendant un certain nombre de minutes, puis de prendre l'improvisation qui était la meilleure. Et lorsque j'ai fini cette session d'enregistrement, je suis revenu à la régie. Et là, je me disais vraiment, laquelle je choisis. Et ma copine, Gabrielle, était avec moi. Puis c'est elle qui m'a dit, mais tu peux en prendre deux. Et finalement, on retrouve deux pièces sur l'album, Distraction 1 et Distraction 2, qui sont deux improvisations.
Votre copine, qui d'ailleurs s'est mise tout récemment à la musique également, l'apprentissage de la musique.
Oui, tout à fait. Elle a commencé à apprendre le violoncelle. Elle progresse très, très, très rapidement. On commence aussi à jouer ensemble certaines pièces classiques, pièces un peu plus populaires aussi, par exemple la trame sonore du jeu Angry Birds.
Alors, on profite de l'occasion pour la saluer. Elle s'appelle...
Gabrielle.
Gabrielle. Alors, un gros bonjour à Gabrielle, qui nous écoute sans aucun doute. Et qui devra dorénavant être encore plus hardi avec l'archet de son violoncelle. on va revenir à l'atmosphère de Noël. Moi, c'est une pièce que j'aime beaucoup, la prochaine. Elle est encore une fois extraite, à tout le moins, on l'entend dans le film « Maman, j'ai raté l'avion ». Elle est une des pièces qu'on pourrait qualifier de classique des chansons américaine de Noël. C'est « It's the most wonderful time of the year », un chant très populaire de Noël qui a été écrit, imaginez, en 1963 par Edward Pola et George Weil et qui a été enregistré la même année par le regretté Andy Williams pour son tout premier album de Noël. Il voulait refaire le grand succès de Bing Crosby, White Christmas, et n'avait pas imaginé que White Christmas était indéclassable puisque Bing Crosby avait pris toute la place et que ce serait justement « It's the most wonderful time of the year » qui lui collerait à la peau. C'est devenu la chanson associée à Andy Williams. La voici et on se met dans l'ambiance.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near.
It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year.
Moi, quand j'entends cette chanson-là, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, je trouve que c'est une chanson qui nous porte non seulement être joyeux, mais j'allais dire presque à magasiner nos cadeaux de Noël.
Oui, c'est vrai, ça met un peu dans cette ambiance-là aussi. C'est une chanson très légère, où on pourrait même danser sur cette pièce-là.
C'est aussi une belle histoire que cette histoire du film dont vous parliez. La belle histoire, c'est aussi le titre d'une autre de vos pièces qu'on retrouve sur l'album. Avant qu'on l'entende, j'aimerais que vous me racontiez comment ça se passe dans un studio d'enregistrement, surtout quand c'est pour le premier album. On n'a pas l'habitude de se retrouver dans un grand studio. J'imagine que c'est très grand.
Oui, c'est très grand. C'est difficile d'imaginer comment ça se passe jusqu'à temps qu'on le vive. Je me souviens, j'étais arrivé au studio, j'ai rencontré le technicien alors, et là, je joue un peu au piano, et là, je réalise, je vais enregistrer les notes que je vais jouer. Je ne peux pas revenir en arrière. En fait, je peux reprendre différentes prises, mais ce que je joue, chaque note va être enregistrée, et c'est ce que les gens vont entendre. Et ça met, très honnêtement, une certaine pression. Mais au bout de quelques pièces, on apprend à s'amuser, puis ça coule de source.
Il y a quand même une nervosité palpable. On se retrouve seul?
On se retrouve seul. On se retrouve seul avec les micros, les différents micros dont on sait qu'ils sont en train d'enregistrer ce qu'on est en train de jouer. Et à la fin de chaque pièce, moi, j'avais hâte de retourner en régie pour écouter le résultat.
Et on n'a pas idée, on écoute un album, bon, c'est à peu près 60 minutes de musique, mais il faut beaucoup plus que 60 minutes pour enregistrer un tel album.
Tout à fait. La journée où j'ai enregistré l'album, j'étais arrivé très tôt le matin et j'étais sorti très tard le soir.
C'est une session de travail de combien d'heures?
Plus de 12 heures. On peut calculer ça comme ça parce qu'on ne prend pas vraiment le temps de prendre de pause. On dîne, bien entendu, pour se faire des forces. Mais lorsqu'on est en studio, on veut jouer, on veut enregistrer, on veut en profiter au maximum.
Est-ce qu'on est préoccupé davantage par la technique ou par, j'allais dire, l'anima, c'est-à-dire la montée de ce que l'on retrouve à l'intérieur de son cœur, de l'inspiration?
Au début, c'est beaucoup la technique, mais lorsqu'on a apprivoisé le studio, lorsqu'on a joué quelques pièces, là, on est capable, à tout le moins, ça a été mon cas lorsque j'ai enregistré, on est capable de revenir aux sources qui nous ont fait composer les différentes pièces.
Et qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser? Est-ce que c'est la technique, le fait de se retrouver seul avec soi-même, le fait d'apprivoiser aussi la salle et le piano nouveau, parce que c'est un piano qui n'est pas le nôtre?
Je dirais que c'est le dernier élément. Donc, il faut apprendre à apprivoiser le piano. Puisque en tant que pianiste, on joue souvent sur différents pianos. La touche va être plus dure, plus molle, ça va plus résonner, moins résonner. Et c'est la grande adaptation à laquelle on doit faire face. Donc, dans le cas d'un studio, ça a été le défi principal. Par la suite, la technique, bon, on l'a acquis. Lorsque c'est des compositions aussi, on les a tellement jouées, ça vient tout seul.
Alors, racontez-nous ce que sous-tend le titre « La belle histoire ».
La belle histoire, c'est un peu cette idée selon laquelle, pour faire une belle histoire, il doit y avoir des moments plus creux, afin d'apprécier les moments qui, eux, sont heureux. Mais comme toutes les belles histoires, ça va toujours bien se terminer.
Thank you.
Belle histoire, musique de Lucien Dubois. Comment décririez-vous votre musique? Je sais que c'est pas facile pour un compositeur de décrire sa propre musique, mais comment la décririez-vous?
Depuis quelques mois, j'ai commencé à répondre, lorsque les gens me demandent cette question, à répondre que c'est des compositions semi-classiques. J'ai pris des cours classiques, je crois que ça peut transparaître dans ma musique, mais en même temps, j'aime bien jouer des pièces qui tirent plus vers le jazz ou vers le populaire. C'est un mélange de tout cela.
Et où retrouvez-vous le plus grand plaisir?
Le plus grand plaisir...
Est-ce que c'est dans le jazz? Est-ce que c'est dans ces musiques semi-classiques?
Ça va être dans toutes les pièces. Toutes les pièces
ont leurs caractéristiques.
Dans le classique, il y a ce bonheur de jouer quelque chose, surtout dans le bac, quelque chose qui est très bien organisé, où on entend très bien les deux mains. Lorsqu'on joue du Beethoven encore une fois dans le classique, c'est cette émotion qui ressort très bien aussi. Lorsqu'on va dans le jazz, c'est cette idée qu'on est libre, qu'on peut faire ce qu'on veut, on a un terrain libre qu'est le piano. Puis lorsqu'on est dans les compositions, on est à la fois dans un terrain libre et à la fois dans un terrain connu.
Terrain connu, c'est aussi ce que vous évoquiez en début d'émission, c'est-à-dire la présence de cette musique à la maison, mm-hmm. parce que vous avez un frère, Olivier, mm-hmm. qui joue aussi de la musique.
Tout à fait.
Une sœur qui aime bien chanter, Émilie. Et à Noël, il y a une chanson qui revient souvent, que vous avez chantée aussi, paraît-il, dans des centres d'hébergement. Mm-hmm. Si vous nous racontiez un petit peu.
Oui, mais cette chanson-là, il y a quelques années, c'était un peu une anecdote qui revenait d'année en année. Lorsque ma mère commençait à chanter cette chanson-là, et nous étant plus jeunes, tous les trois, on disait « Ah non, pas encore, les sentiers de neige ». Et finalement, dans les dernières années, on se rassemble toute la famille autour du piano dans le temps de Noël et c'est notre chanson principale, Les Sentiers de neige. Cette chanson qui se chante très bien, qui est joyeuse, qui est légère.
Une chanson qui a été popularisée, bien sûr, par les Classelles. Mm-hmm. On est en début décembre, probablement qu'il n'y a pas encore de neige de façon abondante sur le territoire de l'ensemble du Québec. Mais ça ne sera pas tellement long. On va pouvoir parcourir ces sentiers de neige. Est-ce qu'il y a des chansons comme ça qui... parfois qu'on peut qualifier de ringarde, parce que, c'est pas au plan harmonique, vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'est pas très compliqué comme mélodie.
Non, tout à fait, mais souvent, les plus belles chansons sont les plus simples.
Alors, celle-ci est probablement parmi les plus belles, alors.
Les Sentiers de neige, du groupe Les Classelles.
Le sentier de neige, courant la
Chanson de Noël en ce début décembre avec nous Lucien Dubois, jeune compositeur de 22 ans qui a produit lui-même son premier album CD qui vient tout juste d'être rendu public, en quelque sorte, producteur. Mm-hmm. Compliqué de produire son propre album, puis pourquoi vous avez décidé de produire le vôtre?
Oui et non. Pour répondre à votre première question, en fait, il y a beaucoup d'éléments auxquels il faut penser. La première étape, bien entendu, c'est de choisir les différentes pièces. La deuxième étape, c'est aussi tout le côté plus technique, c'est-à-dire de mettre en page ce qui est pochette CD, ce qui est CD lui-même, de faire le graphisme. Mais c'est un côté qui est bien plaisant. Plusieurs éléments techniques auxquels il faut penser comme ça au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, mais on ne sent jamais ça comme un travail, c'est toujours plaisant. Puis lorsqu'on reçoit le produit final, bien c'est un peu la récompense.
Vous avez donc été présent du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire même le contact avec le studio. Est-ce que c'est vraiment une production à laquelle on pourrait dire où vous étiez du début au milieu et à la fin du projet?
Tout à fait, tout à fait. Pour les compositions, bien entendu, c'est moi qui les ai écrites. L'enregistrement, c'est moi qu'on peut entendre sur le CD. Puis pour ce qui est du côté mise en page du CD, la même chose.
Et on reconnaît bien sûr la touche Lucien Dubois lorsqu'on écoute l'album, parce qu'il y a comme un fil conducteur dans mm-hmm. l'ensemble de ses pièces. Là, on constate que ce ne sont que des pièces de piano seules. Mm-hmm. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait imaginer un album où il y aurait un accompagnement avec plusieurs musiciens?
Oui, en fait, dans mon esprit, il est certain qu'un jour, je vais sortir un CD qui va être orchestral. Quelle forme va prendre ce CD? Eh bien, ça va être au fil des années ou peut-être des prochains mois que ce dernier va prendre forme. J'aimerais reprendre quelques-unes des compositions et les orchestrer, mais bien entendu aussi en écrire de nouvelles et jouer ça avec un orchestre complet.
Parlons du titre de l'album, Sans titre, C-E-N-T. C'est qu'on peut aller laisser notre imagination vagabonder un peu partout?
Tout à fait. Bien, si je reprends un peu les mots que j'ai dit au début de l'émission, il est parfois difficile de choisir des titres pour les pièces qui, elles, sont musicales. Et sans titre, C-E-N-T, c'est un peu cette idée qu'il peut y avoir différents titres pour une même pièce. Lorsque le compositeur décide que ça va être tel ou tel titre, on impose un peu une idée maîtresse autour de la pièce musicale, mais c'est lors de l'écoute que vraiment l'auditeur va se faire sa propre idée.
On parle de Lucien Dubois, le compositeur, l'interprète, mais vous êtes aussi aux études.
Tout à fait, tout à fait. Je suis présentement au baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal.
Vous êtes aussi l'organisateur d'un spectacle associé à l'Université de Montréal.
Oui, tout à fait. C'est un spectacle qui va avoir lieu le 28 mars prochain, si je ne me trompe pas. Ce spectacle se nomme le Psycho. Donc, les étudiantes et étudiants de psychologie de l'Université de Montréal peuvent venir montrer sur scène leurs différents talents. Le chant, la danse, le cirque, ou même, comme j'aime à dire, s'ils sont dresseurs de lions, ils peuvent venir aussi.
Et ce n'est pas le premier que vous organisez?
Non, tout à fait. C'est la deuxième année, mais ce n'est pas ma première expérience en organisation de spectacles.
Et tous les musiciens qui sont en herbe peuvent se présenter à ce spectacle, même s'ils ne sont pas de la faculté de psycho? Ou...
Non, en fait, il faut qu'au moins un des étudiants du groupe soit étudiant en psychologie à l'Université de Montréal.
Bon, alors on se donne rendez-vous le 28 mars, mais auparavant, on va revenir à la musique de Noël. Mm-hmm. Ça, c'est une musique particulière. Encore une fois, on revient à ce film qui, pour vous, a été un film marquant, si je comprends bien.
C'est le film du temps des fêtes, par excellence.
Maman, j'ai raté l'avion de Chris Columbus. Ce film a été marquant. Vous dites que c'est le film du temps des fêtes. Vous savez que le petit bonhomme qu'on retrouve dans ce film-là s'appelait Macaulay Culkin. Il a été malheureusement, probablement porté trop rapidement vers la gloire. Mm-hmm. Ça lui a peut-être monté un peu à l'esprit, mais il s'est retrouvé dans toutes sortes d'imbroglios. On dit qu'il a été arrêté à un moment donné à Oklahoma pour possession de drogue. Mm-hmm. Ses parents étaient avides de ses gains. Ça n'a pas été une famille très fonctionnelle, peut-on dire. On est loin de la magie de Noël. Oh. Là. Et sa grande sœur Dakota est morte d'ailleurs à 29 ans en 2008 après avoir été renversée par un chauffard à Los Angeles. Et paraît-il que ce n'était pas quelqu'un de très, très, très agréable à côtoyer à Hollywood. Mais il semble-t-il que là, maintenant, il est sur une voie, et je vois le technicien opiner, qui est un grand spécialiste du cinéma, semble-t-il qu'il est sur la bonne voie. Alors, on va écouter la musique de John Williams, Home Alone. C'est la musique Setting the Trap, et c'est tiré du film, donc, Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion. Et ça, c'est inspiré beaucoup de cette mélodie qu'on peut même fredonner. Tam da da dam dam da da dam dam da da dam. Voilà.
Et d'ailleurs, dans le film, John Williams fait vraiment une transition entre cette pièce, Carol of the Bells, qu'il lit avec cette pièce originale, je crois, Setting the Trap.
Ben merci de dire Carols of the Bells parce que j'avais oublié justement le titre. J'étais juste capable de la fredonner. Ben Lucien Dubois, c'est tout le temps dont on disposait. Mm-hmm. Mais on va vous réinviter d'ici la fin de la saison parce qu'on veut réentendre d'autres pièces. D'ailleurs, on va clore cette émission sur une musique que moi, je pourrais qualifier de musique de Noël que vous avez composée parce qu'on vient de parler Carol of the Bells, mais on pourrait parler de l'horloge de verre. On entend les tic-tac qui nous amènent tranquillement vers Noël. Si on veut se procurer votre album, c'est disponible un peu partout?
Ou... En fait, ça va probablement être disponible sous peu dans les différents magasins, mais pour le moment, le CD est disponible sur mon site internet, donc luciendubois.net, et vous pouvez vous le procurer relativement facilement.
Alors, on en prend bonne note et on se donne rendez-vous. On vous réinvite. C'est promis, d'ici la fin de la saison.
Ça va me faire plaisir.
Et là, on fera peut-être une émission estivale plutôt qu'une émission hivernale. Et on vous aurez eu le temps de déballer vos cadeaux, finalement. Bien, merci beaucoup. C'était l'émission Au gré du temps. On vous souhaite plein de succès avec cet album.
Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être ici.
Armand Dubois, qui vous souhaite de passer un beau mois de décembre. On s'en va tranquillement vers Noël. Il y aura beaucoup d'émissions associées à cette fête à l'antenne de Radio Ville-Marie. Alors, demeurez à l'écoute, une belle programmation tout au long du mois de décembre. Cette émission a été réalisée en ce qui nous concerne sous la vigilance et l'oreille attentive de Vital Côté. C'est Armand Dubois qui vous souhaite de passer une belle fin de journée. Au plaisir, au revoir.